Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, 170e épisode, le 11 juin 2022. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Bon, écoute, on va recevoir Michel Barrette, qu'on a déjà reçu dans le passé en deuxième partie d'émission pour nous parler de la route 66 qu'il vient de refaire.
Mais cette fois en moto. Avec un groupe d'amis, là,
ouais, c'est ça.
Une formule différente de celle de louer une Mustang décapotable. Là.
Oui, ou une Altima.
D'accord.
Ouais, parce que,
ou un Nissan Rogue.
J'ai rencontré quelqu'un qui a loué une Altima chez Enterprise et qui a fait la route 66.
Mais je pensais que tu faisais référence à Nissan qui avait organisé un événement sur la route 66.
Même pas.
Avec la Altima et le Rogue et par la suite avec un Kicks et je ne sais plus
ça.
C'est pas le même cachet.
Hein? Non, c'est pas tout à fait pareil. Bon, écoute, Honda vient de dévoiler les images de son HR-V de façon officielle.
Oui.
Et c'est ça.
C'est ça. Hein? On l'attendait, en fait, l'année dernière, ce véhicule-là. C'était retardé. Un peu comme l'aurait été le Civic, finalement. Hein? On aurait tiré la génération précédente un peu trop longtemps. C'était assez générique comme approche esthétique par le passé. Là, on ose peut-être une petite enfer de plus, mais ça demeure assez ordinaire dans son approche. On sait que pour la précédente génération Honda HR-V, ben on empruntait la plateforme de la Fit. Hein? C'était carrément une Fit qui était plus haute sur pattes et qui partageait des caractéristiques intéressantes comme la modulation de la banquette arrière, etc. Mais bon, là, on n'a pas de Fit, donc c'est une architecture qui est partagé là, entre le CR-V et la Civic. On a tout mis ça dans le malaxeur et ça nous a donné un CR-V. Pour ce qui est de la mécanique, très, très grande surprise.
Un HR-V, hein?
Pardon?
Un HR-V.
Oui. Donc, pour ce qui est de la mécanique, très, très grande surprise.
Oui.
Hein? On est tous tombés en bas de notre chaise. Donc, le moteur de 1,8 litres a été remplacé par le moteur de 2 litres qui anime l'actuel Civic. Donc, la puissance passera de 141 à 158 chevaux. Donc,
Et as-tu vu à quel point c'est drôle? Parce que on passe notre temps chez les constructeurs automobiles à... excuse-moi l'expression, mais à downsizer les mécaniques.
Ouais.
Nissan qui est arrivé avec un 3 cylindres 1.5 litres cette année. Le CR-V, même qui a un moteur 1.5 litres turbo, on réduit les cylindrées des moteurs. Mais là, mais pas partout, parce que quand c'est un véhicule qui est destiné à un marché un peu plus local,
c'est-à-dire l'Amérique du Nord.
C'est-à-dire l'Amérique du Nord versus la planète au complet, ben là, on peut se permettre de garder des mécaniques qui
ont
font
du bon sens.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le HR-V, honnêtement, je pense qu'on a mis le bon moteur.
Ouais. Ça devrait pas être vilain, là. C'est sûr qu'on aura une boîte CVT.
Ah, ça va être ordinaire, là.
C'est
ça
pas
va
ce qu'on préfère.
Mais ça va faire le travail et ça va être extrêmement fiable.
Oui, ça, on peut l'imaginer.
C'est sûr. Bon, évidemment...
Ça sera pas donné comme véhicule. Là.
Ça part à 30 000.
Oui, 30 000, 680 $ on rajoute à ça frais de transport et préparation. Pour un véhicule, un VUS sous-compact, c'est pas donné.
Ben, sous-compact.
Sous-compact, mais de plus en plus gros, là.
C'est
dans les plus gros sous-compacts, là. Mais si on respecte la hiérarchie...
On est dans le niveau d'un Taos, là.
Ouais, c'est ça. Mais si on respecte la hiérarchie, le CR-V demeure le compact, puis le HR-V, lui, c'est le sous-compact. Mais oui, c'est
mais
dans
comme
les...
tout grossit avec les années, on peut imaginer que le nouveau HR-V est assurément plus gros que le premier CR-V.
Oui, absolument. Oui. Absolument.
C'est assez évident. Mais bref, c'est sûr que c'est un autre véhicule à succès qui va se vendre énormément chez nous. Et puis, les gens l'attendaient, mais de toute façon, le HR-V d'ancienne génération, ça commençait à battre de l'aile un peu. Là.
Oui, mais en fait, on ne lui a jamais vraiment donné d'amour en cours de route. Donc, d'arriver avec un nouveau produit, c'est rafraîchissant. En plus, le HR-V était dans les premiers, si ma mémoire est bonne, à arriver dans ce segment-là de petits VUS. Donc, le temps commençait à faire son effet.
Oui, exactement. Il n'y a pas, malheureusement, de version hybride.
Non,
comme
pour aller rivaliser
avec une Corolla Cross hybride, par exemple.
Ce serait trop beau pour être vrai.
Serait trop beau pour être vrai, mais à tout le moins, on sait qu'on va avoir une bonne mécanique.
Je te laisse nous glisser un petit mot sur l'émission de télé qui sera diffusée à 11h30 ce samedi sur le réseau TVA, l'émission de télé du Guide de l'auto.
Oui, bien écoute, on va présenter l'essai du Toyota BZ4X 100% électrique, version à traction qu'on a mis à l'essai. Véhicule de pré-production qu'on a mis à l'essai, faut le mentionner, parce que c'est un véhicule qui sortait tout juste du salon d'auto. Et parallèlement,
Du salon de l'auto, du véhicule électrique.
Du salon du véhicule électrique, parce que le salon d'auto, lui, il n'a pas encore existé depuis un méchant bout de temps. Et parallèlement à ça, je suis allé faire, histoire de balancer les choses, l'essai d'une camionnette Sierra à moteur 6,2 litres AT4X. Pour être en harmonie avec le BZ4X.
Donc, tu es allé tout dépenser tes crédits carbone.
C'est ça, exactement. Aller faire de la conduite hors route avec ce camion-là dans le désert de la Californie. Grosso modo, c'est pas compliqué. C'est l'équivalent d'un Chevrolet Silverado ZR2, mais avec un niveau de luxe supérieur à bord.
Okay.
Et retenez ceci, cette suspension-là qu'on a mis là-dessus, c'est extraordinaire.
Est-ce que ce sera fiable? Est-ce que ça coûtera cher à remplacer?
Est-ce que ça sera fiable? C'est pas une mécanique pneumatique, c'est une suspension. Okay. On l'appelle multimatique avec plusieurs amortisseurs. C'est quelque chose de très, très, très performant. Puis ça fait un boulot incroyable. Bon, évidemment, ce camion-là n'est pas donné, mais c'est un beau spectacle que ce camion-là est capable de donner en conduite hors route par rapport, par exemple, à un AT4 qui, lui, est très, très ferme au niveau de la conduite et n'a pas la polyvalence de cette version-là.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, je reviens tout juste de la région de Kingston où j'ai pu conduire la Subaru WRX 2022. On se rappelle que Subaru a décidé d'interrompre l'aventure avec la STI, ce qui en fait finalement la voiture la plus radicale de la marque, puisque celle qu'on reconnaissait avec son gros aileron n'existe plus. Chez Subaru, on aime bien nous dire là qu'elle n'est pas morte et enterrée, mais je t'avoue être très, très peu excité à l'idée de voir apparaître quelque chose qui ressemblera fort probablement à un Solterra STI. Ça ne me fait pas lever le poil sur les bras. Là.
De toute façon, je pense que même Subaru s'en cache pas. Le Solterra, c'est pas une Subaru. Tu sais, je veux dire, puis ça fait pas partie de l'ADN de la marque non plus. Là. Alors que la WRX...
Oui, ça, c'est une authentique Subaru. Donc, pour la cinquième génération, donc la nouvelle génération, on a un moteur turbo-compressé à plat. Évidemment, 2,4 litres. Le même qui a été introduit d'abord avec la Scent, puis, puis avec l'Outback, avec la Legacy. Mais là, il est, comme on dit, tuné un petit peu différemment pour avoir un rendement différent parce que c'est une vraie sportive, la WRX. On est à 271 chevaux.
Quand même.
Oui. C'est un beau... à force de la conduire, au fil des kilomètres, t'en viens à pardonner à Subaru l'idée d'avoir éliminé la STI parce que tu te dis, c'est en masse ce qu'on a. C'est amplement suffisant ce qu'on a entre les mains. Une STI s'était peut-être rendue trop radicale pour rien.
Mais de toute façon, l'STI, les puristes d'une STI, il y en a qui ne jurent que par ça puis qui veulent même pas regarder une WRX régulière, là. Mais la grosse différence de performance entre une STI puis une WRX, honnêtement, c'était pas en accélération.
Non.
C'est
non,
au
non.
niveau de ce que les suspensions sont capables de faire, au niveau des freins aussi, mm-hmm. parce que Subaru et les freins, ça n'a jamais été, ça a jamais fait bon ménage. Là.
Mais pour celui qui fera un peu de rallye ou un peu de course, de toute manière, les pneus vont prendre le bord, les amortisseurs, puis
c'est
les
ça.
Freins aussi.
C'est
alors
ça.
Rendu là, je crois que la WRX est une très bonne base. Je te parlais de sa mécanique. Bon, évidemment, on a la transmission manuelle à 6 rapports. 80% des ventes de la WRX, c'est avec une boîte manuelle. Et quand on conduit celle avec la boîte CVT, on comprend pourquoi.
Non, en fait, on comprend pas pourquoi, parce que j'ai de la misère à m'expliquer que 20% des acheteurs choisissent une CVT là-dedans.
Ben, en fait, quand on est pris dans le trafic 2 heures par jour et qu'on fait 1, 2, 3, je peux comprendre que ça puisse être tannant. Bon, l'embrayage n'est pas pesant là, c'est assez facile à utiliser, mais oui, la boîte CVT, bon, on sent que on a essayé, on sent qu'on a travaillé fort, qu'on a mis beaucoup d'efforts, mais le résultat n'est absolument pas là. Ça n'a rien à voir
encore
avec...
Encore un effet d'élasticité de CVT.
Bien sûr, et de simulation de changement de rapport, parce que tu peux engager un mode sport, et là, ben, on va révolutionner jusqu'à 4000 au lieu de 2200, puis c'est tout ça est très artificiel.
Elle ne va pas shifter plus haut.
Oui, mais elle va le donner l'impression de changement de rapport plus élevé, mais enfin, c'est toute cette philosophie de la simulation, je suis pas fan. Bon... On est très loin d'une boîte automatique à double embrayage comme on aurait chez Volkswagen, ouais. Je te le confirme. Là. Donc, même si chez Subaru, on nous dit... d'ailleurs, on lui donne pas le nom CVT. Là, on lui a trouvé un nom de marketing là, de transmission performante de Subaru. Là, mais je vous rassure, c'est bel et bien une CVT. Non, ne prenez pas cette version-là. D'ailleurs, pour ce qui est des niveaux d'équipement... La voiture part à 30 995 $, c'est-à-dire 1 000 de plus que pour la génération précédente, qui elle-même était une offre assez alléchante. Considérant que tout coûte beaucoup plus cher, ben on en a plus que jamais beaucoup pour notre argent.
C'est fascinant de voir, tu sais, à cette époque-ci,
oui.
À quel point Subaru, qui il n'y a pas si longtemps... proposant une gamme de voitures plus chères que la moyenne, aujourd'hui, on est ultra compétitif dans les prix.
On avait peut-être un petit là, 5 % de plus là, dans les prix la concurrence. Mais là, oui, si on prend les modèles 1 à 1, l'Impreza, c'est très agressif, c'est sûr.
L'Impreza de base, c'est 5 000 de moins qu'une Civic de base.
Oui, mais écoute, c'est un produit beaucoup plus vieux, c'est certain. Mais la facture est bien moins salée.
Crosstrek.
Le Crosstrek est très, très, très agressif.
5 000 de moins qu'un HR-V.
Oui. Je l'entends.
Je regarde l'ensemble des produits de la...
Et là, avec une WRX, ben, on est quoi? 5 000 de moins qu'une Civic SI? 4 000 de moins?
Oui, exactement.
À peu près, grosso modo.
Puis, équipé au bouchon, t'es encore...
T'es à 40 000.
5, 6 000, ouais, ouais, ouais. T'es encore 5, 6 000 de moins qu'une Golf R de base.
Mais pour moi, l'intérêt n'est justement pas d'aller vers une version Sportech qui aurait tout l'équipement. Pour moi, de base, elle est déjà très, très décemment équipée. C'est sûr qu'à 35 000...
Elle doit avoir un système de son de merde, là, comme toutes les Subaru de base. Ouais, ouais.
Mais en y allant pour une version sport qui est 35 000 $, mais là, on va avoir les belles jantes de 18 ou 19 pouces. Là, ma mémoire fait défaut. On va avoir la climatisation à deux zones. On va avoir le plus gros écran tactile.
Ouais, ouais.
Pour 35 000 $, c'est très, très, très difficile à battre. Mais elle-même n'est pas trop difficile à battre, je te le confirme.
Ouais.
Parce qu'on nous avait proposé de très, très, très belles routes pavées et non pavées dans le nord de Kingston. Et franchement, l'instant de quelques kilomètres, tu pouvais t'imaginer être à la place d'Antoine Lestage, juste avec beaucoup moins de talent, mais c'est une voiture... extrêmement plaisante à conduire.
Et tu la compares comment par rapport à sa devancière dynamiquement?
Parce qu'on a quand même une belle évolution.
On a quand même un moteur un peu plus gros.
On a un moteur un peu plus gros, mais on a trois chevaux de plus seulement.
Oui, mais c'est du couple.
Mais le couple est le même.
Le couple est le même.
Le couple est le même, mais son rendement me paraît plus efficace. Il n'y a pas ce creux qu'on pouvait ressentir entre les changements de rapport. Pour moi, on arrive avec un produit qui est très, très, très abouti avec cette nouvelle WRX. Et on quitte un petit peu la philosophie sportive authentique, pure et dure qu'on avait.
C'est-à-dire, on n'est plus...
On veut plus vendre une voiture à quelqu'un qui va l'écraser de 2 pouces puis mettre des jantes camber, etc. Là, on ne veut pas ça. On lui a mis du cladding. On veut, je pense, aller chercher des gens qui rêvent d'une Golf R, mais qui ont 10 000 $ de moins ou 15 000 $ de moins à dépenser sur leur voiture.
Ils vont conduire leur voiture toute l'année.
Oui, parce que c'est une voiture qui est très capable. Là, sur les chemins de gravelle et de terre qu'on a conduits, je te confirme que je ne voulais pas être au volant d'une Civic SI ou d'une Elantra N. Là. Je te le confirme.
Oh, ouais.
C'est officiel. Là.
Hey, parce qu'attends, à 35 000 $ tu as le rouage intégral, ce que l'Elantra avec la Civic SI ne te propose pas.
À 30 000 $ tu as tout ça. Là.
Ouais.
À 30 000 $ franchement, c'est un secret bien gardé, mais j'ai l'impression qu'il ne sera pas gardé bien longtemps.
Bon, évidemment, j'imagine que vous avez vous avez posé la question, est-ce qu'il va y en avoir?
Mais c'est pas un véhicule à édition limitée, rien de ça. Mais oui, il y a des délais là de plusieurs mois déjà en ce moment, okay. Parce que depuis quelques mois déjà, les concessionnaires prenaient les commandes. D'ailleurs, on a déjà commencé à en livrer, mais oui, l'approvisionnement est complexe comme toujours là, malheureusement.
Je me permets de fantasmer sur la prochaine Crosstrek qui pourrait exploiter.
On spécule un peu, là. Mais...
Peut-être exploiter le look de cette voiture-là, mais en version hatchback et en plus la mécanique dans une version plus poussée.
Oui. Oh, on n'a aucun intérêt, d'ailleurs, on nous l'a dit, là, de revenir avec une version à haillons. La décision a été prise il y a plusieurs années déjà. Structurellement, c'est plus compliqué avec un haillon. Et au Québec, traditionnellement, on préférait les véhicules à haillons. Mais dans le reste de l'Amérique du Nord, on veut avoir un coffre fermé. Et on a pris cette décision-là avec le département de la comptabilité. Puis c'est correct comme ça aussi. De ton côté, tu as conduit un véhicule passablement différent, mais qui est également doté d'arches de roues un peu angulaires.
Oui, et un peu en plastique.
Un peu en plastique aussi, le Lexus UX 2022.
Je l'appelle le Lexus UX.
Oui.
Écoute, je vais être honnête avec toi, je n'avais jamais pris le volant de ce véhicule-là.
Ça manquait à ta
culture. Qui me disait absolument rien. Je le trouve laid, je le trouve disgracieux. Et ce véhicule-là, techniquement, vient remplacer une voiture que j'aimais bien chez Lexus à une certaine époque, qui était la CT200H.
Ouais. Personne ne sait c'est quoi. Là.
Non,
c'était
la CT200H niché, était une voiture...
Tu avais la berline aussi, la HS.
Oui, mais ça, c'était autre chose. Non, ça, c'était pas intéressant. Okay. Mais la CT200H, dynamiquement, c'était même impressionnant si tu mettais ça en mode sport. Tout ça, c'était pas mal, vraiment, comme voiture. Là, ça joue la pseudo-carte du VUS, puis bon.
Mais ça n'a rien d'un VUS, là.
C'est une voiture à haillons, là, mais avec beaucoup trop de plastique et de grille et de tout ce que tu voudras. Bon, je conduis un modèle 2022. Je suis très heureux d'apprendre que pour 2023, on élimine le pavé tactile, l'écran trop petit placé à 8 pieds du conducteur, bref, qui est inefficace. Alors, tout ça, on remplace ça par un écran tactile plus gros, plus efficace, plus moderne. Donc ça, c'est le problème de ce véhicule-là, pour moi, est réglé.
Il n'y a pas moins de menus, il n'y a juste plus de pavé tactile.
Bon. Et on élimine la version traction qui n'est pas hybride, évidemment, aussi, pour ne garder que l'hybride, qui est la plus logique.
La plus intéressante.
La plus intéressante, qui a les 4 roues motrices, avec un système qui ressemble à ce que vous allez retrouver ailleurs chez Toyota Lexus, c'est-à-dire sans arbre de transmission, moteur électrique sur l'essieu arrière. Dans ce cas-ci, c'est 181 chevaux. C'est pas une bombe, mais ça fait un travail très correct. Et tu sais quoi, à 2,25 $ le litre actuellement, ben de rouler à une moyenne de 5,3-5,4 litres au 100,
bas,
avec un véhicule à 4 roues motrices, très confortable au demeurant. Là, les sièges, c'est génial.
On n'a jamais eu de commentaires négatifs de propriétaires qui possèdent un UX. Je sais que ce n'est pas un véhicule à très grand volume, mais c'est rare qu'on va entendre un propriétaire se plaindre de son UX.
Ça va bien, c'est confortable. Hormis le système multimédia que je déteste actuellement, mais on règle le problème en 2023, c'est bien aménagé. Tu sais, c'est très honnête, c'est juste très laid. C'est ça.
C'est non négligeable quand
c'est,
même.
Hein. C'est juste très laid. Oui, mais ça n'a pas... Tu sais, il y a bien des...
Ça n'enlève rien à son rendement.
Lexus en vend des véhicules, là. Fait qu'il y en a des gens qui trouvent ça beau, puis c'est correct, puis tous les goûts sont dans la nature. Moi, je suis juste pas capable de ce look-là. Enlevez-moi, c'est... Écoute, tu sais, on riait du Pontiac Aztec à une certaine époque. Ouais. Sérieusement, là.
C'est-tu plus laid qu'un UX?
Ben...
Pas tellement.
Tu sais comment je suis nostalgique? Je me permets de te dire que je trouve qu'un Aztec, c'est... Pas plus beau, mais moins laid que ça.
Ben, en tout cas, pas plus laid.
Tu sais, bref. Bon. On n'est pas dans un beau véhicule. Mais une fois que tu es assis dedans, c'est un peu ce qu'on nous avait dit chez Honda avec la Clarity lorsqu'on a présenté le modèle.
Oui, oui, oui.
Une fois que tu es assis dedans, tu le vois plus l'extérieur.
Une maudite chance!
C'est ça. T'sais, ils n'ont même pas pris la peine de recréer l'image de la voiture dans l'écran pour te laisser savoir que tes portes sont ouvertes. Là. Ils l'ont pas fait, ça. Juste pour pas que tu la voies, ben, Lexus, c'est un peu la même chose. Tu es assis dedans, puis c'est bien correct comme ça. Mais c'est un véhicule qui va bien puis que je recommande les yeux fermés.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Parce que je m'apprête à la faire pour une seconde fois. Bon, Germain, tu le sais que je me suis procuré une camionnette du côté de la Californie et que j'ai l'intention de la ramener sur son pouvoir avec fiston. Une vieille camionnette des années 70. Ben là, je m'apprête à faire la route 66. C'est qui de mieux? Qu'un gars qui l'a fait, quoi, une bonne dizaine de fois pour nous parler de la route 66, de l'expérience qu'il vient de vivre
avec... Et qui vient de la refaire, là, tout récemment.
C'est ça. Qui vient de la faire avec ses amis à moto, que Michel Barrette, qui, devine quoi, est encore sur la route dans le camion Léo qu'il a fièrement acheté il y a quelques mois, en train d'aller acheter un autre véhicule. Comme quoi, des passions, ça ne s'arrête jamais. Salut, Michel.
Bonjour.
Mon cher Antoine, on appelle plus ça une passion, on appelle ça une maladie mentale, parce que imagine-toi donc que le nouveau véhicule que je m'en vais chercher, ça va être mon 206e dans ma vie.
Oui,
206 véhicules achetés.
Mais ce sera le dernier véhicule, après ça, il n'y en aura plus, c'est ça?
Mais ma blonde, je roulerai par terre de temps en temps.
Écoute. Bon, hey, écoute.
La veille de ma mort, je vais être encore en train d'acheter un vieux véhicule.
Ben, écoute, c'est parce que ce qui est drôle, c'est qu'hier, on s'est parlé et tu m'as dit hier que tu avais acheté ton 205e véhicule pour ta blonde qui était un Mercedes SLK et aujourd'hui, tu me parles d'un 206e. Je sais pas si c'est une moyenne que tu comptes continuer, mais là, tu es à un par jour là, de ce temps-là.
Pas de produit bon sens. Si on calcule qu'il y a 365 jours par année, ça va prendre un méchant garage.
Ouais, c'est ça. Bon, écoute, Michel, je veux que tu me parles de la route 66. Pas uniquement de son aspect historique, mais évidemment, tu sais, tu as des coups de cœur, tu l'as fait plusieurs fois, il y a des choses qui t'ont fait triper fois après fois. Il y en a d'autres, tu es probablement resté sur ton appétit. Je pense que la première question que j'aurais pour toi, c'est en quoi c'est différent de l'affaire en moto versus en auto?
Bien là, cette fois-ci, il faut que je sois honnête, je ne l'ai pas fait entièrement. J'ai roulé sur la 66 parce que quand tu l'as fait, moi, je l'ai fait, donc c'était la 10e fois, je l'ai fait 9 fois entièrement.
OK.
Et cette fois-là, mes chums m'ont dit, regarde, on veut faire la route 66. J'ai dit, boys, faites-moi plaisir. La 66, là, soyons honnêtes, est plate à moitié. C'est-à-dire que si tu veux vraiment les 9 autres fois, tu te rends à Chicago devant le restaurant Lou Mitchell et tu pars de là, c'est vraiment le début de la 66.
Ouais.
C'est là que tu traverses ces états-là. T'as... Mais pendant quand même plusieurs états, tu as l'impression de rouler en campagne à Saint-Hyacinthe. Parce que,
tu nous vends beaucoup de rêves, là.
Oui. Alors, je dis des rêves, mais tenez-vous bien. Parce que quand tu arrives après ça, disons à partir du centre, tu sais, au Texas, là, tu as des plaines, et là, l'entrée, ça va apparaître des cactus, et là, il y a des choses à voir. Tu sais, on parlait ensemble du Big Texan Steakhouse, si vous voulez aller. Ça vaut la peine, exemple, au Texas, à Marino, d'aller peut-être tenter le défi de manger 72 onces de steak en une heure. Et c'est impressionnant, il y a une table suisse en homme qui veut relever le défi.
Ouais.
Et j'ai appris que c'est pas des gros footballeurs de 320 livres qui réussissent.
C'est des filles.
Des filles ou des Japonais tout petits qui mettent ça, je sais pas où, mais qui réussissent à le manger. Alors, pour l'histoire, là, si vous voulez faire la 66, faites-le une fois, mais prenez-vous, soyez patient, parce que je me souviens de conseiller la 66 à quelqu'un connu que je n'aimerais pas parce qu'elle aimerait pas ça, mais qui, après ça, m'avait appelé de Los Angeles en disant « T'as donc un plat? » J'ai dit « As-tu suivi la 66? » Ben, elle dit « Moi, j'étais 140, puis à un moment donné, j'étais écœuré, je suis resté 140. » C'est comme si tu disais « J'ai traversé le Canada, je suis resté 120 tout le long. »
Ouais.
Ben, c'est sûr, tu ne feras pas grand-chose. Alors, il faut parfois être patient. Tu le sais, tu le fais.
Ouais.
Parce que, parfois, la 66 n'existe plus. Parce que l'autoroute 40, qui est tout près, a parfois embarqué carrément sur le
par-dessus. Et t'es même capable de voir la vieille asphalte juste à côté de la vieille route qui a encore... Il reste encore des grenailles, mais la route est plus praticable. Puis t'as pas le choix de prendre l'autoroute puis de revenir sur la vieille route après, là, mais ouais.
Oui, mais justement, t'as dit le mot magique « revenir ». Parce que quand il y a une sortie, c'est marqué « Historic Route 66 », tu ressors, tu fais les kilométrages qui existent encore, tu reviens sur 40. Bon, mais plus tu roules vers l'ouest, moins tu as besoin de faire ça. Parce que, à un moment donné, à partir du centre, tu es pas mal tout le temps sur la vraie 66.
Ouais, ouais.
Et là, je ferais ça la nomenclature de tout ce qu'il y a à voir, de Petrified Forest, puis il faut aussi sortir la 66. Ce que je veux dire, si vous tapez la 66, c'est déjà impressionnant. Il y a des villes vraiment qui l'ont protégée. Il y a souvent des états où, carrément, sur la route, Ils ont peinturé le ciel qu'on connaît de route 66 pour dire aux gens, vous êtes vraiment sur la 66.
Des petites villes, c'est ça. Moi, je me suis... le Midpoint Café, qui était à toute fin pratique, mort il y a quelques années, il y a deux dames qui ont repris ça, qui ont remis ça sur pied, qui ont décidé d'investir là-dedans. C'est des dames qui ne venaient pas du coin. Et puis, elles ont investi. Moi, j'ai parlé avec eux. Écoute, j'ai tenté de prendre un dessert là-bas. J'ai failli faire une crise de cœur. Je pense que c'était 3800 calories une pointe de tarte. Là, ça n'avait aucun sens. Mais à tout le moins, tu sais, ils ont vraiment réussi à recréer quelque chose. Et c'est ça qu'on constate. C'est que je pense que il y a des gens qui commencent à la faire revivre de façon individuelle, puis ça crée des moments qui sont le fun pour ceux qui la font. Là.
Oui, mais c'est très bien. Il y a d'ailleurs un magazine qui existe qui s'appelle Route 66 et il y a une espèce d'association entre États pour la protéger puis pour faire survivre ces motels-là, ces restaurants-là, parce que c'est magnifique. Tu sais, quand tu couches dans un motel qui a été construit en 1948, où tu as encore le lit que tu mets en dessous puis les chaises, là. Tu sais, je pense au motel Munger, entre autres.
Ben oui.
Super propre, mais où tu couches vraiment à une autre époque. Alors, le film des bagnoles, on se souvient, hein, l'animation, c'est carrément l'histoire de 66. Ces petits villages-là qui ont été abandonnés lorsque l'autoroute a été construite et que les gens essayent de survivre parce que c'est leur gagne pain. C'est magnifique. Bon, mais je vous disais, il faut en sortir. Quand tu arrives, mettons, à la hauteur de Kingman, OK, en Arizona, il faut, et même juste avant, quand tu es à Seligman, ou juste avant Seligman, il faut sortir, aller au Grand Canyon. Quand tu es à la hauteur de Kingman, il faut faire des détours pour aller à Vegas si vous êtes jamais allé. Parce que et revenir sur la 66 pour faire un peu des cercles. J'ai fait ça une fois. J'ai fait une série de cercles. Je roulais sur la 66. J'arrêtais, mettons, à Flagstaff. Et là, je disais, bon, on s'installe à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le coin? Là, on faisait 50 km à gauche, 50 km au sud, 100 km. On revenait sur la 66. Comme ça, vous avez l'avantage non seulement d'avoir vécu la 66, mais d'avoir vu l'Amérique et l'Amérique profonde. Juste pour l'anecdote, la première fois que j'ai fait la 66, j'avais 24 ans, avec une Volkswagen Coccinelle, que j'avais payé genre 1 000 $. J'avais 500 $ dans mes poches, comme tout argent dans la vie. Et, tu sais, on est jeune, on est fou, ma blonde a 22 ans. Et on fait la 66. On se retrouve à quelque part dans le désert. Je vous fais le portrait. J'arrive là, c'est marqué « Faites le plein » parce que la prochaine station d'essence est à 120 km ou 200 km.
Ouais.
J'arrête, il y a une pompe, une seule pompe. Il y avait deux messieurs, c'est une peinture de Norman Rockwell. Deux messieurs en salopette de jeans, avec la peau brûlée par le soleil, qui regardent au loin, ça fait 75 ans. Et il y a un chien qui dort. Puis là, les deux, il y en a un qui regarde l'autre, qui fait semblant de dormir. Il se demande qui des deux s'est levé le 3 semaines quand quelqu'un a osé arrêter là.
Oh.
Alors, je stationne devant. Il y en a un des deux qui se lève. Vieux monsieur, là. Il fait le tour de la coccinelle. Il s'installe à ma vitre, puis il dit... il me dit, « Québec, where the fuck is that? » J'ai dit, « Non, on aurait fait que je disais Montréal.
Ouais. »«
Montréal. » Il dit, « You drive this shit from Montréal. » Yes. Il dit, « Are you kind of crazy or something? »
Ouais, ouais.
Et là, à un moment donné, il prend la... Il veut faire le plein. Il cherche l'endroit où mettre le boyau.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que, j'ouvre le capot avant. Et là, il me dit, « Where's the fucking engine? » Il dit, « Où est le moteur? » Je dis, « The fucking engine is in the back. » Là, il dit à l'autre, « The fucking engine is in the back. » Il dit, « What kind of car? » Je dis, « It's a Volkswagen. » « What? » C'est un Volkswagen Beta. Et là, il part. « The fucking Hitler car. » C'est Hitler, le char d'Hitler. Tu vois, j'ai fait la Deuxième Guerre mondiale. Puis, excusez, monsieur, je l'ai parti directement d'Hitler. Là. Il dit, « C'est moins de voir ça dans la vie. » Alors ça, là, c'est la route 66.
Ouais.
Ça, c'est les gens qu'on rencontre dans les cafés. Vous allez les voir. Vous allez en rencontrer des phénomènes comme ça. Vous allez croiser des gens à Harley-Davidson avec des vieilles voitures, avec des Westphalia. Il y a quelque chose de mythique, oui, dans la route 66. Et il y a quelque chose, vous savez, j'en arrive, on en a parlé, là, on en a parlé à la télévision, à la radio. Et si tu savais le nombre de messages qu'on a reçus pendant qu'on était là-bas, parce qu'on y a des photos, de gens qui redisent, je veux faire la 66. Parce
ouais.
que, tu sais, tu vas traverser les déserts. Après ça, tu vas rentrer, mettons, en Arizona, en Nevada. Tu vas arriver en Californie, des montagnes. Et là, après avoir vu des cactus, tu vas traverser les montagnes et là, tu vas arriver à Santa Monica avec des palmiers, la mer.
Et là, la vie reprend, là.
Ah ouais.
La vie reprend. Et tu dis, j'ai traversé l'Amérique. J'ai fait 5000 kilomètres dans l'Amérique, la vraie. Pas l'Amérique de New York, pas l'Amérique de San Francisco. L'Amérique des salopettes en jeans, des chapeaux de cowboy,
ouais.
puis de gens qui savent encore c'est quoi que l'Amérique.
Dis-moi, Michel, pour l'amateur d'automobile comme nous sommes tous les trois, c'est quoi les principales attractions qu'on peut voir sur la route 66?
Mais Antoine me parlait de... Il y a bien sûr le Cadillac Ranch, justement, près d'Amarillo.
Ouais.
Mais Antoine, tu me parlais du musée Pontiac.
Ouais. Ça qui est au tout début de la route 66, c'est quelques ouais. heures après être parti de... évidemment, c'est dans la ville de Pontiac. Puis c'est un musée entièrement dédié à la marque Pontiac et à tout ce qui concerne le chef Pontiac aussi. Fait que c'est un musée qui est vraiment, vraiment impressionnant. Mais si tu le sais pas, t'arrêtes pas puis tu passes tout droit. Fait que moi je pense que c'est important justement de se documenter puis pas juste avec les livres touristiques qui ont été faits. Faut que tu ailles fouiller sur des oui. pages web, que tu parles à des gens qui l'ont fait, parce que si tu te fies juste aux livres qui ont été faits par les entreprises qui font des livres de voyage, tout ça, ben tu vas tomber dans les trappes à touristes, puis il y en a sur la route 66 aussi là.
Ben merci de dire ça. C'est pour ça que je disais qu'il faut en sortir la 66. Revenir dessus pour dire j'ai roulé dessus. Mais tu l'as très bien dit, sortir des livres dits touristiques et d'aller parce que alors c'est facile à voir, on les voit le nom des villes. T'sais, si t'es à Saint-Louis, ben sors de. Entre en ville, ouais. va voir l'arche. Alors il faut vraiment. Mais j'aurais de la difficulté en quelques minutes d'expliquer tout ce que la 66 peut t'apporter. Mais pour répondre aux amateurs de voitures qu'on est, il y a aussi le plaisir de voir beaucoup de voitures abandonnées qui sont là au soleil. Combien de fois...
Depuis des décennies, là.
Ouais.
Depuis des décennies. Une station-service fermée, mettons, en 1963, et que tout est encore là. Ils ont barricadé, il y a des voitures, il y a encore la vieille pompe, il y a encore le vieux camion de remorquage et tout. Il y a aussi cette fouille-là qui est intéressante à faire. Et de poser des questions. Et de dire, hey, moi, je suis un amateur de vieilles voitures. Fait que le gars va te dire, des fois, ça va être à deux rues en arrière. Ah, hey, come with me, viens, là, tu vas rencontrer ouais. quelqu'un qui va te présenter quelqu'un. Puis... C'est ça.
Ah, faut pas que tu sois. Si t'as l'âme, si t'es antisocial, c'est pas la place. Parce que, évidemment, non. tu vas rencontrer des gens, puis d'emblée, t'as l'impression que les gens sont peut-être un peu plus acclimater à t'accueillir, à t'offrir une bière à quelque part, à te faire découvrir quelque chose. Puis tu sais, c'est drôle. Je sais pas, écoute, si t'as cette même impression que moi, mais des fois, tu passes devant des maisons ou des commerces abandonnés ou bon, puis t'as l'impression que les gens... Tu sais, un monsieur qui a une vieille maison qui est là depuis 50 ans, bien, il y a 50 ans, il s'est acheté un char. Quand ça a fait 8 ans qu'il a roulé avec, il l'a stationné là. Il l'a pas revendu ou envoyé à scrap. Il l'a juste parké là. Et là, tu as l'historique, 50 ans plus tard, des 13 autos qu'il a possédées dans sa vie qui poussent dans le gazon chez lui. Comme si les gens se débarrassaient jamais de leur vieille voiture. C'était un peu drôle. T'sais.
J'ai vécu exactement ce que tu me racontes là. Le monsieur dans sa maison avait comme un support attelé, là, puis il avait 7 ou 8 voitures. Alors, il pouvait te montrer, celle-là, je l'ai acheté en 1936. Après ça, je l'ai stationné là quand j'ai acheté l'autre, sur son pouvoir, là. Après ça, j'ai acheté l'autre, l'attelé du 36 est là, après ça, l'attelé du 43 est là, l'attelé du 51 est là, l'attelé... Tu avais toute l'histoire automobile de cet individu-là, non seulement à travers les véhicules qui sont encore là, mais il y avait encore toutes les clés. Ben accroché comme si c'était à partir demain matin.
J'ai juste hâte de voir s'ils vont continuer de faire pareil avec des Kia Soul électriques.
J'ai comme l'impression que non. Hein? Parce qu'il n'y a plus de clé. Il n'y a même plus de clé. C'est des télécommandes intelligentes.
Ils disent « Embarquez-moi pas là-dedans ».
Non, j'ai comme le bras qui m'engourdit.
Michel, tu nous parlais de la revalorisation de la route 66 qui, par section, tente de reprendre vie. Et là, je ne veux pas tomber dans l'âgisme parce que une amie m'a qualifié moi-même du plus jeune boomer qui reste. Mais est-ce que c'est pas justement un trip de boomer, la route 66? Parce que, je le disais un peu à la blague avec Antoine, je m'imagine très mal 4 milléniaux dans une commune auto aller vivre l'expérience de la route 66.
Là. Et moi, j'adore l'image.
Ah, oh, ben moi, j'aime pas l'image. Parce que c'est comme un sacrilège. Mais tant mieux, s'ils sont en commune auto ou en voiture électrique, peut-être que, justement, la nostalgie, le rapport avec la route, le rapport avec les gens, vont peut-être leur expliquer qu'il y a eu un monde avant ces voitures électriques-là, qu'il y a eu un monde avant des voitures qu'on peut partager, des voitures que j'appelle des guidounes, que tout le monde peut partir avec.
Ouais.
Et peut-être que ça leur donnera le coup ben, de s'acheter une vraie voiture.
Mais c'est sûr que faut que tu ailles la fibre nostalgique pour aller faire ça.
Mm-hmm.
Si t'es pas nostalgique,
faut que tu aimes la vieille musique, faut que tu aimes la vaisselle ancienne, faut que tu aimes l'architecture ancienne.
L'histoire en général,
oui.
Oui, il faut que tu ailles dans une ville, il y a souvent des murales là, qui ont été peintes, qui rappellent l'histoire de la ville en question. Puis il faut entrer dans les cafés, il faut chercher les bâtiments anciens, il faut pas aller chez McDo. Il faut vraiment aller au petit café qui a été ouvert, qui a été fermé, ouvert en 48, racheté en 53, pour entendre puis parler au propriétaire, à la serveuse, c'est qui va t'appeler Honey, gros comme le bras. C'est pour vraiment la vivre et la comprendre. Sinon, ben, va faire mettre toi à Saint-Hyacinthe puis pas mettre toi en campagne.
Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on sait pas de la route 66?
On sait pas plein de choses. C'est-à-dire que, il y a toujours l'histoire qui serait trop longue à raconter, mais je reviens à notre discours à savoir qu'à chaque fois que tu poses une question à quelqu'un, un local, là, ben tu vas toujours apprendre une histoire. J'oublie le nom de la ville où il y a le fantôme du policier qui la nuit, il traverse le village, toute lumière et toute sirène ouverte, puis c'est une vieille voiture. Puis c'est j'ai appris ça. Maintenant, en fouillant sur Internet, je me suis aperçu que oui, il y avait cette légende-là de l'ancien policier de la ville de je sais pas quoi, qui parfois la nuit, il part après, je sais pas, il y a une urgence, puis c'est un fantôme.
Okay.
Le lendemain, ça va être un meurtre, le lendemain, ça va être, il faut savoir que Jesse James est passé ici, puis il faut savoir que les Bonnie and Clyde, ils étaient stationnés à telle place, ils ont défoncé telle banque. Alors, il faut pas avoir peur de fouiller et d'aller voir plus loin que l'asphalte à l'ouest.
Puis s'il y en a une trappe à touristes où tu veux pas aller sur la route 66, là, ce qui te désole un peu de la route 66, c'est quoi?
Les trappes à touristes sur la route 66, il y en a plein. Il y a des musées qui sont intéressants. Il y a plein de... je pense à Seligman. Je trouve ça triste parce que pendant longtemps, Seligman, il y avait le barbier qui était un des plus grands défenseurs de la route 66.
Ben oui.
Et qui l'entretenait et qui visitait ses voisins pour dire, écoute, il faut garder l'âme de la 66. Puis là, il est décédé. Et là, là, à Seligman, c'est triste parce que c'était peut-être à l'époque le haut lieu de ceux qui voulaient faire survivre le 66. Et là, là, ben, tu rentres au restaurant, tu peux acheter des pâtes lait, puis des posters, puis des plaques en tôle.
Puis t'as des autobus de Chinois qui débarquent là.
Et voilà.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Mais ouais. Ça tue la magie. Parce que, oui, tu peux te ramener un souvenir, mais tu ne veux pas faire 5000 km d'une boutique de souvenirs à une autre, tu sais.
Non, c'est ça.
Si tu vas voir la Tour Eiffel, ben, monte dedans. Va pas juste acheter une Tour Eiffel de 2 pouces, après ramener ça chez vous en disant, voici, je suis allé à Paris, tu sais.
Ou à l'aéroport, là, tu sais. Ouais, c'est ça.
Ouais, oui, moi, j'ai un chum que je n'aimerais pas, que lui, écoute, on partait en voyage en Californie, puis à l'aéroport de Montréal, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je ramène des souvenirs des enfants. Tu vois, il y a des souvenirs de quoi? Ça, là, il achetait des cuillères marquées Montréal. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? On s'en va en Californie. Tu vas-tu venir à Alma à tes enfants? Regardez, papa est allé à Montréal.
Rendu là, moi, si j'étais toi, je pense que je le nommerais, ton chum.
Il n'est pas que je le nomme.
Bon, puis là, t'es en route pour aller t'acheter quoi, Michel, là? Parce qu'on veut pas te retarder.
Bon. Écoute, je suis stationné sur le bord du chemin parce que je voulais parler en toute légalité. J'ai eu, moi, des motorisés de 40 pieds de long, des Westaglia quand j'étais jeune, des un 67, des split window, des B window, des Vanagon, des vannes américaines, Chevrolet, Ford, toutes sortes d'affaires. Puis, là, on a eu, après ça, on a monté jusqu'à 40 pieds de gros motorisés qu'on traînait 20 pieds de trailer, 60 pieds sur la route, ridicule, avec 52 extensions.
Quelque chose d'assez là, économique de ce temps-là, là.
Ah, et, j'ai rien pour des gens qui ont ça, mais c'est votre trip à vous, là. Mais moi, je suis nostalgique. Alors, récemment, on s'est parlé pas avant hier, puis ça s'est décidé dans les dernières 24 heures.
Ouais.
J'ai dit à ma blonde, ça me prend un motorisé vintage. Alors, on est allé sur les internets, comme dirait mon père.
Ouais.
Et là, je suis tombé sur un Ford Class C 1987. Tu sais, il appelle ça le Ford 350, mais
ouais. Bon, c'est Econoline, là. Ouais, ouais.
Econoline, mais Class C, là, avec le tu sais, le Class C, c'est-à-dire le
élargi, le là. Ouais, ouais.
Là. Ouais, élargi avec la
couchette en haut de la cabine, là.
La couchette en haut de la cabine. Écoute, il est impeccable. Il y a 125 000 kilos, 351 4 barils, ça va siphonner l'Arabie Saoudite au complet. il est magnifique. Je m'en vais là, chercher ça là. Là. Puis, écoute, j'ai eu de la misère à dormir. Je suis comme un enfant de 12 ans que son père, il a promis un bicycle le lendemain. Non?
Bon, ben, histoire de te faire plaisir, Michel, moi, un de mes souvenirs d'enfance avec un camion similaire à celui que tu viens de t'acheter, c'est le film Six Pack avec Kenny Rogers. En français, il appelait ça Brewster et les Six Schnappants. C'est un film qui se passe en...
Pas stock car là-dedans,
hein? Oui, exactement. Alors, il est pilote de stock car. Il y a six orphelins qui deviennent son crew. Et lui conduit un Econoline classe C comme ça du début des années 80, puis avec laquelle il traîne sa vieille Camaro. Je t'invite à aller réécouter ce film-là. J'ai l'impression que tu vas le faire jouer en boucle dans ton nouveau camper. Et je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta
probablement blonde. En VHS, hein?
Oui.
Oui, en VHS, mais ça doit se trouver. Et mon rêve, là, pour finir avec le camper, c'est d'accrocher un trailer derrière un trailer ouvert. Et moi, là, tu sais, je vais courir encore cet été avec une Porsche 944 des années 80, là. Tu sais, aller faire des courses vintage en conduisant un camion vintage et embarquer sur la piste avec une voiture vintage.
Avec un bonhomme un peu vintage aussi.
Beaucoup vintage.
Ben, on te souhaite des beaux moments dans ce véhicule avec probablement du gros tapis Shag orange ou brun et un très bel été avec tout ça.
Une cassette de Johnny Cash. Puis moi, en attendant, ben, je suis un peu mieux armé pour aller faire la route 66 en espérant que j'aille bien du fun à la faire. En sens inverse, évidemment, parce que je prends l'avion pour aller chercher le pick-up et je m'en reviens avec Fiston avec ça.
Et puis, on peut inviter les gens à écouter aussi la série qui est publiée sur YouTube où tu avais parcouru justement la route 66,
ouais.
Mais avec la grosse brune cette fois-là, et tu avais documenté le tout, c'était fort intéressant. Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous.
OK, bye-bye.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, prenons quelques instants pour répondre aux questions des auditeurs. On a Rachel qui nous dit qu'elle sait qu'on est en plein mois de juin, mais elle tente de prévoir le coût d'avance pour l'hiver prochain. À quoi ressemble le chauffage d'un véhicule électrique? Elle mentionne être très frileuse et ça l'inquiète.
Bien, le chauffage d'un véhicule électrique, c'est rarement un problème. Le problème, c'est la conséquence de chauffer l'habitacle d'un véhicule électrique. Il y a des véhicules qui sont moins efficaces que d'autres, c'est vrai, mais on parle surtout de modèles de première génération. Bon, pensez à une Nissan Leaf. Pensez aux premières Ford Focus électriques. Pensez aux premières Kia Soul. Là, on avait de la misère avec le chauffage de l'habitacle en hiver parce qu'on n'avait pas de pompe à chaleur, on n'avait pas de thermorégulation. Là, c'est des problèmes qui sont relativement réglés. Par contre, veut pas, l'autonomie en prend pour son rhume parce que chauffer l'habitacle d'un véhicule en hiver à moins 20, ça veut dire puiser de l'énergie de la batterie énormément et à ce compte-là, bien, vous allez perdre en autonomie. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. L'hiver à moins 20, votre véhicule électrique va généralement perdre 35 à 40 % de son autonomie, peu importe la marque que vous allez choisir. Et c'est normal. Actuellement, dans le contexte, c'est normal. Il faudra attendre quelques années pour que l'industrie améliore cette technologie et amène une batterie qui va être capable de se réchauffer ou du moins de réchauffer l'habitacle sans impact sur l'autonomie. Il faudrait trouver des systèmes auxiliaires. Et c'est sûr qu'on travaille là-dessus actuellement. Je regarde, par exemple, ce qu'on a fait du côté de chez Lucid Motor. On semble avoir une technologie qui sera moins impactée à ce niveau-là. Mais encore là, il faudra l'essayer.
Et la rendre disponible au grand public.
Bon, je pense à Fisker là, qui s'en vient avec un véhicule dont le pavillon complet est un panneau solaire qui pourra alimenter accessoires et systèmes de chauffage du véhicule. Ça, je pense que c'est une sacrée bonne idée. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner efficacement. Donc, un véhicule électrique en hiver, ça chauffe. Évidemment, je parle d'un véhicule moderne, mais ça a un impact sur l'autonomie.
On a Eric qui nous dit qu'il est sur le point de commander une Polestar 2 single motor avec le groupe optionnel Plus. Il cherche une voiture haut de gamme qui pourra lui servir occasionnellement pour remorquer lors de travaux très légers. Il possède une Toyota Prius Prime qui deviendra le deuxième véhicule familial. Il imagine qu'elle ne sera pas aussi fiable que leur Toyota Prius, mais est-ce qu'il peut s'attendre à une certaine fiabilité dans l'optique de la conserver sur une période de 10 ans?
Ça ne m'inquiéterait pas, honnêtement, parce que, je veux dire, c'est une voiture solide, c'est une voiture qui est bien construite. Il y aura peut-être des glitches informatiques X, Y, là, mais je ne suis pas particulièrement inquiet de cette auto-là comme je le serais avec une Tesla, qui est une voiture mal assemblée, mal fabriquée et qui risque de passer plus difficilement à travers de nombreux hivers québécois. Dans le cas de la Polestar, ben, pas besoin de vous le dire, c'est une Volvo. Et regardez c'est quoi les Volvo là, qui ont 8, 10, 12 ans. Qu'est-ce qu'elles ont comme problème? De nombreux problèmes mécaniques, parce que les mécaniques chez Volvo sont pas fiables. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans une Polestar, vous en avez pas. Mm-hmm. Et vous avez la qualité d'assemblage, par contre, d'une Volvo. Il y a une Volvo qui a 10-12 ans aujourd'hui. Elle est aussi belle qu'une neuve.
C'est
encore très robuste. C'est des voitures qui sont très, très, très solides. Alors non, ça ne m'inquiète absolument pas. C'est d'ailleurs, je le dis haut et fort, c'est d'ailleurs la voiture électrique que je m'achèterais si je devais m'acheter ce type de véhicule-là.
On a Steve qui nous mentionne parcourir de 50 à 55 000 km annuellement. Il songe remplacer sa Volkswagen Jetta TDI 2012 par une Kia EV6 GT2. Est-ce qu'il peut envisager la conserver de 7 à 8 ans et parcourir jusqu'à 400 000 km sans être inquiet du remplacement de la batterie?
Le seul facteur qui, pour moi, pourrait être problématique, c'est si vous utilisez des bornes de recharge de niveau 3 à répétition. On sait que de charger trop rapidement des batteries, trop souvent, ça impacte sur leur durée de vie et qui plus est si vous vous rendez à 100 % de la charge. Donc, c'est de savoir si vous allez recharger à la maison sur une borne de niveau 2 ou si vous allez charger constamment sur une niveau 3. C'est-à-dire si vous faites, par exemple, du Montréal-New York deux fois par semaine, puis vous n'avez pas le choix de vous recharger sur une borne de niveau 3 au moins deux, trois fois par semaine, bien ça peut impacter à long terme sur la durée de vie de la batterie. Mais autrement, je serais pas particulièrement inquiet. Évidemment, c'est un tout nouveau produit. Est-ce que la batterie qui est dans ce véhicule-là va présenter des défaillances X, Y, Z, donc qu'on ne connaît pas actuellement? Je suis pas devin, mais selon toute vraisemblance, c'est une technologie qui est intéressante et je vois pas pourquoi ce véhicule-là présenterait des problèmes si vous en faites une utilisation dite raisonnable, c'est-à-dire chargée majoritairement sur des niveaux 2 et occasionnellement sur des niveaux 3.
Merci Antoine, bonne fin de semaine.
Bon week-end.
Cube Radio.